Alors bonjour à tous, on est heureux d'entendre ces chants pour nous encourager, pour nous rappeler qu'effectivement Dieu nous a donné la joie et on va un petit peu parler de ce sujet. Il y aurait de nombreuses façons de l'aborder, mais voilà, je vous ai proposé un titre « Invitation à la joie » et un sous-titre « Pouvons-nous goûter la joie dès aujourd'hui, la joie du ciel sur la terre ?» C'est vrai que Étienne l'a rappelé, le monde qui nous entoure ne nous inspire pas tellement de joie, vu les faits divers, les circonstances, je ne veux pas les rappeler. Artistique des diplômes qu'ils ont obtenus, des succès qu'ils ont rencontrés, il y a aussi des retrouvailles avec des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, qui peuvent occasionner la joie et qui peuvent être des moments qu'on apprécie beaucoup avec des personnes qu'on aime. Et quelquefois c'est dans la nature même qu'on peut rencontrer aussi un moment de bonheur, d'extase, en admirant la splendeur de la nature, que ce soit dans la forêt, dans la montagne ou ailleurs. Et il y a aussi des moments d'amour partagé entre des êtres qui sont proches, des actes de pardon même peuvent amener la joie dans le cœur. Mais ces moments sont occasionnels et ils sont souvent éphémères et en fait, ils sont vite ternis par le cours de la vie et par les soucis de la vie que chacun connaît, plus ou moins. Et il faut reconnaître que le monde, et la Bible le confirme, a perdu la vraie joie, celle que Dieu donne. On y a déjà fait allusion. Nous, pour nous, on sait que, et on va le rappeler, c'est là qu'on va regarder à cette source de joie qui est en Dieu. Pour revenir encore un petit peu à la joie du monde, le roi Salomon en a fait le constat. D'abord, il y avait un petit plan, mais je vais passer rapidement, c'est pour montrer qu'il y a plusieurs parties qui parlent beaucoup de la joie, d'accord, un peu de la tristesse aussi. La joie dans le monde. Alors, j'aurais pu passer ce dire un peu avant. Salomon en a fait le constat depuis longtemps, et il dit dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 2, « J'ai dit à mon cœur, le verset est affiché, « Alors je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. » Et voici, c'est encore là une vanité. « J'ai dit du rire insensé, et de la joie à quoi sert-elle ? » Et voici, c'est encore là une vanité. Dans le livre des Proverbes, le même auteur dit « Même dans le rire, le cœur est triste. Et la fin de la joie, c'est le chagrin. » Donc, Salomon pourtant avait de bonnes raisons, humainement parlant et matériellement parlant, d'être heureux. Mais il montre qu'il est vraiment désabusé et que sous le soleil, tout est vanité. Est-ce que vous connaissez l'anecdote du clown ? Peut-être que vous la connaissez, si certaines ne la connaissent pas, je vais vous la raconter. Cette anecdote du clown, je ne sais pas dans quelle ville ça se passe, mais un jour, c'est un malade qui vient sonner à la porte d'un médecin. Il ne souffrait, disait-il, d'aucun mal particulier, mais il ressentait un trouble indéfinissable, un certain malaise, une tristesse qu'il ne pouvait surmonter. En effet, le médecin, après auscultation et après un examen minutieux, ne décèle aucun mal particulier, aucun organe malade. Alors il finit par lui dire « Ce qu'il vous faut, c'est de la distraction. Tenez, commencez ce soir, il y a un cirque qui donne une représentation avec le célèbre clown Antel. Allez le voir !» Alors l'homme le regarda tristement et dit « Mais c'est moi le clown. » Voilà, c'est un petit peu pour montrer que les rires du monde, l'excitation, tout cela, en fait, c'est un peu comme de la mousse sur le du bain, et ça s'évapore assez facilement, un peu trop vite souvent. Et le cœur de l'homme ne peut se satisfaire de cette joie. Il a besoin d'autre chose, d'une autre joie. Même s'il n'exprime pas ce besoin, il est quand même ressenti au fond de lui. Comme Dieu qui a placé dans nos cœurs ce sens de l'éternité, ce besoin d'éternité, eh bien, il y a aussi un besoin d'amour dans le cœur chacun, un besoin de joie. Alors, je vous invite à une exploration, de la parole de Dieu, un parcours un peu à la découverte de la joie et de la vraie joie. C'est à travers la Bible qu'on la trouve. Chacun le sait, hein, je vous rappelle que des choses bien connues, c'est le livre où Dieu se révèle. Alors je vous invite à remonter à la source, et cette source, en fait, c'est voilà, la joie céleste, et c'est la joie du Dieu trinitaire. Alors, voilà, la Bible nous parle de cette joie dont déjà elle nous parle de la Trinité. J'ai mis la joie de la Trinité. Juste un mot, on sait que ce mot n'est pas biblique, on ne le trouve pas dans la Bible, mais il exprime une réalité qui est indéniable, que tout lecteur qui est correct doit reconnaître dans la parole de Dieu. J'ai noté quelques paroles qui peuvent nous induire dans ce sentiment. Dans l'évangile de selon Jean, on trouve essentiellement « Moi et le Père, nous sommes un », vous pouvez le lire. « Le Père est en moi, je suis dans le Père », c'est Jésus qui parle. Et il répète encore, et puis il dit en Jean 17, « Toi, Père, tu es en moi, et moi en toi ». Voilà, Jésus exprime cette union avec le Père par des formules d'immanence, de présence réciproque. Et en fait, il affirme que le Père, le Fils lui-même et le Saint-Esprit ne sont pas trois dieux, mais un seul Dieu, mais en fait qui sont trois personnes distinctes et mais unies dans un amour sans fin. Les pères de l'Église, avec un certain Jean Damascène, je ne sais pas si vous connaissez, ont appelé ce mystère la péricorèse. Et c'est quand même un terme qui est assez sympathique, qui illustre un petit peu cette communion intime, la péricorèse donc, qui illustre cette communion intime qu'il y a entre les personnes de la Trinité. Et une communion intime qui est à la fois dynamique, il y a du mouvement réciproque, et où chaque personne divine demeure dans l'autre, dans les deux autres même, sans perdre son identité, et dans une circulation perpétuelle, dans un mouvement d'amour perpétuel, sans confusion, sans mélange, ni séparation. Voilà. On peut dire que le Père se réjouit en contemplant le Fils se réjouit d'être dans l'amour du Père et le glorifie, et le Saint-Esprit, en fait, est la joie vivante et la respiration commune de cet amour partagé. Et la péricorèse a été représentée, il y a une petite animation là, par une danse trinitaire. C'est aussi une image. On sait que le Seigneur Jésus s'est servi d'image, de parabole, pour expliquer des vérités théologiques profondes. Hein. Alors, on ne veut pas représenter les personnes de la divinité, là. Non, on n'oserait pas. Mais pour représenter cette communion qu'il y a à l'intérieur de la Trinité, cette communion d'amour et cette joie qui en résulte. Alors, voilà. Et dans cette danse, qui est la danse trinitaire, on parle de ces termes, il y a chaque personne qui tourne autour des deux autres tout en étant dans les autres, un peu compliqué, et qui cède la place aux autres. Péricorèse, ça veut dire tourner autour et céder le pas. Voilà. Donc, il y a un ressenti d'humilité en même temps et de mise en avant des autres. Chacun joue ce rôle au sein de la Trinité, semble-t-il. Voilà. Alors, où est la joie là-dedans? Eh bien, la joie, on sait que la danse est une façon d'exprimer la joie, et cette image de la danse est une façon de parler de la joie. Dans la Bible, on trouve à maintes reprises des expressions qui rapproche la danse et la joie. J'en ai relevé deux. Dans le livre de Jérémie, il est question des jeunes filles qui se réjouiront à la danse. Et dans Samuel 18, lorsque les femmes sortent à la rencontre de David, vainqueur de Goliath, les femmes donc sortent avec joie en chantant et en dansant. Donc on voit que la danse est une belle expression de la joie. Et la joie, en fait, c'est ce qui donne la musique et le rythme de ce mouvement éternel d'amour. Voilà, donc cette image est une métaphore de la communion qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une joie dynamique. D'ailleurs, il y a ce verset, je l'ai mis aussi le dernier, Jean 1, 18, le Fils unique qui est dans le sein du Père, qui est traduit comme ça dans la plupart des versions, en fait, elle a Le mot grec au départ signifie vers. Hein. C'est un mot de mouvement qui montre qu'il y a justement une dynamique, mais qu'on a eu de la peine à traduire, puisqu'on a laissé dans, qui est dans, il semble que c'est statique, mais en fait c'est Jésus qui est tourné vers le sein du Père, dans un mouvement constant et dans une dynamique qui s'instaure au sein de la Trinité. Donc ça aurait été mieux traduit par tourné vers le sein du Père. Voilà. Cette voie de la Trinité, on comprend que c'est là qu'est la source, la Trinité, et puis il va y avoir un rayonnement, il va y avoir un éclat. La Trinité, cette joie, dans cette péricourèse qu'on a montrée, eh bien, Dieu, le Dieu trinitaire, va vouloir ouvrir cette danse, il va vouloir rayonner et montrer et faire entrer dans la danse d'autres personnes, des humains. Alors, cette source, ce rayonnement et cet éclat font penser aussi au soleil. Et j'ai trouvé cette image belle. À partir du psaume 84, l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. C'est un verset magnifique. Et puis, le psaume 19, qui parle aussi du soleil, qui montre dans ce psaume qui parle de la création et de sa beauté. Et le soleil est semblable à un époux qui sort de sa chambre, qui s'élance vers la carrière avec la joie d'un héros, voilà, etc. Et le soleil, la Bible le montre, n'est qu'une image, en fait, une faible image de la splendeur et de la gloire de Dieu. Je ne perds trop de temps, mais ces caractéristiques, c'est vrai, montrent que ce qui se passe de physique à l'intérieur du soleil, ou de chimique, eh bien, est une image de ce qu'est Dieu dans tout son être, dans l'être spirituel qu'il est. En effet, on sait que dans le soleil, il y a une pression de température énorme, 15 millions de degrés, et qu'il se passe des réactions, des fusions d'atomes d'hydrogène qui se transforment en hélium de façon régulière. Il paraît que c'est 620 millions de tonnes à la seconde, hein, ça représente, je sais pas, une centaine de semi-remorques à la seconde. Et puis, ces réactions produisent une énergie considérable, d'abord une énergie thermique à l'intérieur et lumineuse ensuite à l'extérieur. Et on sait que c'est transmis ensuite par le rayonnement solaire et que la Terre bénéficie de tout ce que le Soleil produit, de cette énergie, de cette lumière, de cette chaleur, même des rayons ultraviolets, qui peuvent être nocifs à forte importance, mais qui sont utiles pour la Terre. Voilà, et tout cela rend possible la vie sur la Terre. Donc ce que le soleil fait dans le domaine physique, en fait, Dieu le fait dans un autre domaine, et je pense qu'il a choisi un soleil comme ça pour nous parler de lui, hein, parce que la création nous parle de Dieu. Et bien pour nous montrer que lui aussi, dans l'éternel Dieu est un soleil. Et dans ce passage, donc, le psalmiste voit en fait toute la lumière, toute la chaleur, toute la vie que Dieu produit et amène sur la terre pour les hommes. Alors voilà, tout ce que le soleil est dans le monde visible, eh bien Dieu est dans le monde en général, dans tout l'univers. Et on peut dire que cette énergie qui est au cœur du soleil montre un peu le bouillonnement de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quelque chose qu'on a à peine à imaginer. Et peut-être l'énergie solaire nous en donne une petite image. Et on voit que ce verset, le premier qui était marqué, psaume 84, l'Éternel donne la grâce et la gloire, on voit la générosité de notre Dieu, on voit son amour qui ne peut pas se cantonner à lui-même, qui veut se faire connaître et s'étendre jusqu'aux hommes sur la terre pour donner à tous la vie éternelle. L'Éternel donne la grâce et la gloire et il va donner sa joie aussi aux hommes. Donc on comprend bien que la joie de Dieu, c'est pas une émotion humaine, c'est pas à partir de nous qu'il faut la définir. C'est pas la joie que nous projetons sur lui, mais c'est une réalité en fait spirituelle qui habite Dieu, hein, qui est profonde en lui, qui l'habite Et cette joie profonde, immuable, indépendant des circonstances, on comprend que le soleil lui-même n'est pas affecté par les circonstances qu'il y a autour, hein. On voit qu'il a sa vie en lui-même, et bien de même Dieu trouve sa source et l'essence de cet amour en lui. Alors je vous propose aussi de lire quelques passages qui est de la Bible, parce que c'est à elle qu'on veut se référer, il y aura pas mal, qui nous montre cette joie dans la Trinité. Et on va voir que cette joie est énormément liée quand même à l'amour. Alors, on va oser une petite incursion dans l'éternité, essayer de voir comment le Père trouve sa joie dans le Fils. La joie du Père dans le Fils. J'ai pris un verset du livre des Proverbes, au chapitre 8, qui dit « J'étais à l'aide auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant ou riant en joie, sans cesse en sa présence. » Voilà, le contexte montre une joie réciproque entre le Père et le Fils, qui existe de toute éternité dans un face-à-face continuel. Et lors de la création de l'univers, eh bien, le Père continue à se réjouir dans la sagesse du Fils, dans son habileté. À un moment donné, c'est Dieu le Fils qui parle, et le Père est en joie. Et voilà, la parole du Fils, donc, laisse toutes les galaxies, l'univers, le système solaire, la Terre, que Dieu a créé, que le Fils crée pour être habité. Et puis, Dieu prend plaisir à son Fils, il le contemple constamment avec enthousiasme, on sait qu'enthousiasme vient du mot Dieu, et il est rempli d'émerveillement par son Fils, par tous ses actes. Et puis, on a la joie du Fils, la joie du Père dans le Fils. Alors encore, bien sûr, cette joie est continue, hein, et elle se produit aussi sur la terre. On a cette phrase « Celui-ci est mon fils bien-aimé » que le Père dit, « en qui j'ai trouvé mon plaisir ou mon affection ou ma joie ». Et cette phrase retentit deux fois sur terre, chacun sait, d'abord au baptême de Jésus, et c'est donc au Jourdain que Jean baptise, et puis voilà, la voix de Dieu le Père se fait entendre. Il ne peut pas, semble-t-il, retenir sa voix pour que ce Fils, celui qui fait son plaisir sur cette terre, soit distingué des autres, des pécheurs auxquels il s'est mélangé. Et il va proclamer qu'il trouve vraiment en son Fils toute sa joie. Et on voit dans cette scène qu'il y a aussi l'Esprit de Dieu qui intervient, qui descend comme une colombe, un signe de pureté, de douceur, de plénitude, d'amour, et cette colombe qui vient de paix aussi, qui vient se poser sur lui. Voilà, c'est la joie du Père qui voit le Fils, qui vient accomplir sa volonté sur la terre, et qui va s'engager dans son ministère public, au service des hommes. Et puis la deuxième fois, c'est donc sur la Sainte Montagne, sur une haute montagne, peut-être au Mont Tabor, où Jésus est transfiguré à la vue de trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, vont assister à une scène magnifique, si vous jamais vu. Dieu enlève un petit peu le voile de l'incarnation pour faire apparaître la gloire de Dieu, la gloire de son Fils, du Fils de Dieu. Il apparaît dans toute sa majesté, et c'est incomparable, ses disciples tombent par terre. Voilà, et Dieu montre là encore l'entière satisfaction qu'il trouve en son Fils bien-aimé. Vraiment, la gloire du Fils est magnifique. Mais on sait qu'Élie et Moïse rappellent quand même que pour que cette gloire soit manifestée, il faudra l'œuvre de la croix. Il parlait de sa mort. Et puis on voit la joie du Fils et de l'Esprit Saint dans le Père. On ne va pas multiplier les passages, ils ne sont pas très nombreux, mais j'ai retenu un passage de l'Évangile selon Luc. Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Donc le contexte, c'est les 70 disciples qui viennent d'accomplir leur mission d'évangélisation et qui sont tout contents, mais Jésus est encore plus heureux. et il montre sa joie, il recentre la joie pour montrer qu'elle prend sa source en Dieu. Et la joie amène sur ses lèvres la louange. La louange est une forme d'expression privilégiée de la joie qui est éprouvée, ressentie au profond du cœur. Et il fait monter cette louange vers le Père par le Saint-Esprit. On voit que l'Esprit, donc, est le moyen aussi par lequel exprime la joie, même du Seigneur Jésus. C'est par le Saint-Esprit qu'il exprime sa joie, comme la plupart de ses actes qu'il a accomplis. Alors, voilà, il donne gloire à Dieu, et on voit que si le Père a pris plaisir à cela, c'est ce qu'il dit, eh bien, le Fils aussi y prend plaisir. Et on peut dire même que le Saint-Esprit s'associe à cette joie. On a donc la joie trinitaire dans ce passage. Et j'ai parlé de la création, donc Dieu a créé l'univers, le système solaire avec le soleil, les planètes, la Terre, et sur la Terre, il a prévu d'installer, de créer des hommes, des créatures à sa ressemblance, à son image. Alors on pourrait se dire pourquoi Dieu a-t-il créé la Terre, l'univers tout entier? Bon, on va faire un sondage d'opinion maintenant, ou de comment vous répondrez à la question, pourquoi? Bon, il semble que la Bible nous apporte des réponses essentielles, c'est parce que Dieu est amour. C'est une façon que Dieu a d'exprimer son amour. On a parlé de cet amour qui ne peut pas se cantonner à la Trinité. Même s'il est suffisant, même s'il n'a besoin de rien, Dieu n'avait besoin de personne. Et on rappelle que j'ai insisté sur ce fait de la péricurèse de la Trinité pour montrer que tout le monde a compris qu'un Dieu qui aurait été seul n'aurait pas pu être amour. Un Dieu qui aurait vécu seul, sans qu'il y ait trois personnes, comme là on a trois personnes, c'est aussi difficile, hein, c'est une façon d'exprimer les choses qui nous est utile. Mais ce Dieu n'aurait pas pu connaître et partager la joie. Un Dieu qui est unique ne peut pas être... ce serait peut-être un certain plaisir, un certain contentement qu'il retrouve en soi. Mais la joie, ça se partage, ça se communique. Et il fallait que Dieu soit trois en un pour connaître, pour vivre l'amour, pour être amour et pour manifester la joie. Et dans ce cas, alors, Dieu veut communiquer cet amour, il veut communiquer cette joie. Le propre même de l'amour, c'est de le répandre, manifester. Alors dans la Trinité, on comprend que l'amour se manifeste entre l'objet. L'objet est tellement aimable que l'amour de Dieu ne pouvait pas ne pas exister. Parce que chaque personne est d'une perfection, d'une gloire infinie dans la Trinité. Et c'est pour ça que on comprend qu'il y a l'amour. Mais cet amour, on voit qu'il va se manifester aussi à l'extérieur, il va se répandre, il va rayonner jusque vers la terre, jusque vers les hommes, et jusque vers des objets qui ne sont pas dignes de cet amour. Donc on voit la force, la puissance d'un tel amour. Alors, Dieu est amour. Voilà la raison pour laquelle Dieu a créé la terre. Et en fait, il aime son fils, on vient de le voir déjà, et il va rechercher encore à le glorifier davantage, et à lui apporter une joie encore supplémentaire à celle qui se vit déjà au sein de la Trinité, qui est parfaite. C'est une joie glorieuse, ineffable. Mais Dieu veut encore augmenter cette joie, et puis rendre aussi des êtres humains participants à cette joie, les faire entrer dans cette sphère d'amour, dans ce domaine de l'amour, dans cette danse d'amour, et leur faire aussi goûter cette joie, la joie de Dieu. Alors, un mot pour les deux cas. Donc, parce que Dieu est amour, qu'il aime son Fils, pour la gloire et la joie du Fils, et pour le bonheur et la joie des êtres humains. Donc, j'ai mis un verset pour accréditer la première mention. Colossiens nous dit, chapitre 1, « En lui, le Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, tout a été créé par lui et pour lui. » Voilà, ce verset montre clairement que le Fils est à la fois l'instrument et le but unique de la création. Dans ce verset, c'est ce qui transparaît. Et c'est en fait la création, c'est le cadeau merveilleux que le Père offre au Fils pour le glorifier et pour le remplir de joie. Mais en même temps, c'est aussi pour notre bonheur. Le bonheur et la joie des êtres humains. Ésaïe 43 nous rappelle que tous ceux qui s'appellent de mon nom, c'est nous, eh bien, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, que j'ai fait. Donc on élargit le contexte qui parle du peuple d'Israël, et on voit que l'homme est créé pour la gloire de Dieu. C'est la priorité, c'est la notion première, le but premier, pour la gloire de Dieu, et en même temps on peut se réjouir d'être ses créatures et d'être ses enfants. Et puis le psaume 16 nous dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. » C'est un homme qui parle, c'est David, et David a l'assurance d'être dans la joie auprès de Dieu, devant la face de Dieu. Donc, il y a aussi ce but de Dieu, que l'homme soit joyeux, que l'homme soit heureux avec lui, qu'il goûte son propre bonheur et sa propre gloire, et qu'il la savoure en sa présence, alors déjà sur la terre, et même si ici il y a d'abondantes joies devant ta face, et bien déjà par la foi, dans la présence de Dieu, on peut goûter déjà cette joie que nous connaîtrons en perfection, là, déjà évoquée en introduction. Alors on peut faire un peu l'historique, on revient un peu sur terre, on peut essayer de comprendre comment cette joie a été donnée, pourquoi. Je vais rappeler un petit peu le parcours. On va revenir, on va faire un petit voyage 6000 ans en arrière. On va se transporter aussi dans l'espace, en Mésopotamie, où il y avait le jardin d'Éden, on pense. Et puis, voilà, et la Bible est là pour nous guider et nous dire que en Genèse 2, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, il y plaça l'homme qu'il avait formé. Voilà, Dieu donc a créé la création pour son Fils et le chef d'œuvre de la création, l'homme, la femme. Voilà ce que Dieu a prévu. Un homme et une femme, Adam et Ève, formés à l'image de Dieu. Alors, bon, il n'était pas modèle, mais on peut comprendre qu'il jouissait d'une qualité de vie exceptionnelle. Hein, il n'y avait pas de pollution, il n'y avait rien de nocif, et ils avaient de grands privilèges. Et il y avait beaucoup de joie en perspective. Il y avait la joie de donner la vie, de leur donner cette faculté d'être fécond, de pouvoir avoir des enfants. Ils avaient la joie au début, Adam, de nommer les animaux, de régner sur les règnes, sur le monde animal. Ils avaient la joie de vivre dans un cadre merveilleux, un jardin 5 étoiles, beaucoup mieux que Versailles sûrement, puisque il y avait une richesse, une abondance que nous n'osons, nous n'arrivons pas à soupçonner. Et puis, ils connaissaient une vie de couple, ils avaient la visite de Dieu régulière, je pense. Et voilà, donc je ne vais pas m'étendre sur cette qualité de vie qu'ils connaissaient. Mais voilà, Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et malheureusement, chacun sait qu'ils ont mangé le fruit défendu. Alors c'était la chute, la rupture. Et là, voilà, l'histoire de la joie, on la voit là qui subit un contre-coup important, parce qu'il y a eu des conséquences tragiques pour le couple et dans la relation avec Dieu. Déjà, le pire, c'était la mort spirituelle. L'esprit de l'homme va se trouver déconnecté de Dieu, et les pensées vont être obscurcies, et la vraie joie, je pense qu'ils avaient, elle va disparaître. Et des émotions négatives vont apparaître. Dès le début, on a « j'ai eu peur ». C'est ce qu'il dit. Jamais Adam aurait dit à Dieu « j'ai eu peur » avant. Ce n'est pas possible. Voilà. Et puis la volonté, le péché est entré dans le monde, la volonté va s'opposer à Dieu avec des conséquences, des difficultés qui surgissent dans la relation à Dieu, dans le couple, bien sûr, chacun accusant l'autre. maladies, les infirmités surviendront, et puis la mort physique qui arrivera de façon inéluctable. Et depuis ce temps-là, voilà, c'est une histoire à laquelle on est rattaché, parce que les hommes vivent depuis ce temps-là sans parvenir à retrouver cette qualité de vie de nos parents, et à retrouver, pourquoi ? Parce que la relation à Dieu a été coupée. Mais cependant, on peut dire que la joie a laissé des traces en eux, hein. C'est comme l'amour aussi, il y a un amour naturel que les gens vivent, les incrédules connaissent. Il y a une joie aussi, la joie que j'évoquais un petit peu en début de message, des circonstances qui procurent de la joie, mais c'est pas la vraie joie. C'est une joie qui est entachée par le péché et une joie qui est teintée souvent d'égoïsme et d'incompréhension aussi souvent. Alors Dieu. Je reviens encore sur ce projet de Dieu de donner, de faire connaître sa joie envers les hommes. Dieu prend plaisir en son peuple. On le voit dans un passage en particulier de Sophonie, que je vous ai transcrit. L'Éternel, ton Dieu, je le lis, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Voilà, dans ce verset, on voit que ça se rapporte au peuple d'Israël, et Dieu ne se contente pas de le pardonner. C'est un verset extraordinaire. Et on voit que Dieu va exulter à cause de son peuple. Il y a une force émotionnelle intense dans cette description. Quand on voit, quand on sait l'histoire du peuple, un petit peu ce qu'il a traversé, ce qu'il a montré, son idolâtrie, voilà, ça n'empêche pas, rien ne retient l'amour de Dieu. Même si, pour le peuple d'Israël, on sait qu'il y a eu des périodes, et il y a encore des périodes de jugement, de discipline intense, profonde, et des choses vraiment difficiles, terribles même, qu'il a connues et qu'il connaîtra encore. Mais Dieu l'aime. On a peut-être la peine à l'imaginer, et Dieu va trouver, il fera de toi sa plus grande joie. Alors Dieu a eu la joie de le sortir d'Égypte, a eu la joie de le ramener de la captivité de Babylone, mais il y aura une joie future encore, quand le peuple sera rassemblé, et que voilà, tout Israël sera sauvé, tout Israël croyant. Il est aussi question j'ai noté aussi en Ésaïe 62, comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Donc ici, la parole de Dieu se sert des joies qui sont les plus élevées, les plus profondes dans ce monde, on peut dire, la joie des noces, du mariage. Et voilà, Dieu prend cette image pour montrer cette joie qu'il manifeste envers son peuple. La joie de l'alliance de Dieu envers son peuple. Et s'il la manifeste envers son peuple, on comprend bien qu'envers l'Église, il y en est tout autant, bien sûr. Alors, on a aussi la joie du Dieu sauveur qui apparaît. La joie du Dieu sauveur parce que le salut est nécessaire. Et c'est la joie de Dieu de sauver. C'est une joie, certains peuvent dire, quelle joie Dieu doit avoir. Dieu a la joie de créer, on l'a évoqué, mais la joie de sauver les hommes, Dieu trouve sa joie. Dieu trouve sa joie à sauver. Et ce verset le dit, Luc 15, cette belle parabole, moi j'aime bien dire c'est la parabole de Luc 15, un triptyque, en trois parties. Et de même, je vous le dis, c'est Jésus en fait qui parle sur le Père. Il y aura de la joie dans le ciel, c'est la demeure du Père, pour un seul pécheur qui se repent. Donc la joie du Père éclate au ciel pour le salut qu'il donne. Le salut qu'il donne à un seul pécheur remplit de joie le cœur de Dieu. On est stupéfait, émerveillé de voir cet amour de Dieu pour les hommes. Donc il a fallu qu'il aime l'homme quand il était pécheur, et il va lui accorder le salut. Et puis, la joie du Dieu sauveur se montre encore dans d'autres versets. Dans cette même parabole, ici c'est la troisième partie, où le Père, après le retour du Fils prodigue, dit « Amenez vos gras et tuez-le. » mangeons et réjouissons-nous, faisons bonne chère. Car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir, ou à faire bonne chère. Il fallait bien s'égayer, c'est la nécessité de Dieu. Faire bonne chère et se réjouir. On voit que les termes se multiplient pour montrer cette joie qu'il y a en Dieu. C'est une parabole, mais elle est là pour nous parler, que Jésus a raconté, et elle est là pour nous parler de l'amour du Fils, de l'amour du Père et de l'amour du Saint-Esprit. Voilà, faire bonne chère, c'est un peu synonyme ici de se réjouir, parce que c'est le festin est une expression privilégiée de la manifestation de la joie. Et ici, les termes peuvent être traduits par l'un ou par l'autre. Et bon, chez nous, dans de grandes occasions, ben aussi, on fait un festin, on débouche le champagne. Bon, je ne sais pas exactement comment ça se passe au ciel, mais là, en tout cas, on a cette image qui nous montre que ça doit se passer dans des proportions encore plus grandioses. Hein. Quelque chose d'inouï, qu'on a de la peine à imaginer. Voilà, et le Père organise ici un banquet si magnifique qu'on n'en voit pas la fin. Dieu invite donc les hommes, je le répète, peut-être je vous ai dit qu'il répète un peu trop, invite les hommes à entrer dans ce cercle trinitaire. Au banquet, tout le monde est invité. Le pécheur est là, le fils prodigue est là. Il a une place d'honneur même. Et voilà, Dieu nous invite à prendre part à cette danse d'amour et à cette joie du ciel. Mais la joie, elle se manifeste aussi dans le fils. Alors, revient déjà à la création. Tout à l'heure, j'ai mis le début du verset 30, plutôt de Proverbe 8, là c'est le 31, je vais laisser pour maintenant, pour séparer un petit peu, il y avait la joie en Dieu, et là c'est Jésus, le Logos, qui est représenté dans Proverbe 8, et il dit qu'il se réjouissait, me réjouissant dans la partie habitable de la terre. Mes délices étaient dans les fils des hommes. C'est les termes forts, je trouve, quand même, pour nous montrer que il y a une joie égale dans la Trinité, entre le Fils et le Père, je pense, qu'entre le Fils et les hommes. Dieu arrive à manifester, et le Fils arrive à manifester un amour tel que, voilà, il dépasse toute mesure. C'est un amour sublime, et une joie qui en découle, qui est sublime. Et ici aussi, on voit l'insistance, me réjouissant, mes délices. Quand on trouve ces délices en quelqu'un, on est comblé, on ne peut pas mieux, on est vraiment dans le rassasiement. Voilà, donc Jésus, dans le ciel, dès l'éternité, depuis l'aube de l'humanité, aime les hommes. Peut-être qu'il les aimait même avant qu'ils soient créés. Voilà, puisqu'il y avait déjà prévu un salut pour les hommes. Et puis, dans Luc 15 encore, on revient une fois de plus à cette parabole. Ici, c'est la partie qui concerne c'est la première, hein, qui concerne le bon berger avec ses brebis, qui va chercher la brebis perdue. Et ici, on sait qu'il en avait 100, et puis 99 sont restés, puis il est perdu. Et voilà, il est dit, lorsqu'il l'a retrouvée, cette brebis perdue, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit, réjouissez-vous avec moi. Car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Donc on voit la joie ça peut être individuel. Ici c'est la joie du berger, c'est lui qui a fait les efforts, c'est lui qui a opéré le salut de sa brebis, c'est lui qui a souffert. Ici l'image ne va pas plus loin, c'est la fatigue, c'est le temps passé, la recherche, l'inquiétude aussi. Mais on sait que c'est allé plus loin, on sait que le bon berger a mis sa vie pour les brebis bien sûr. Et voilà, c'est la joie. La fatigue, la peine, les souffrances sont oubliées et il n'y a de place que pour la joie de ramener la brebis retrouvée. On voit cette joie intense et profonde du berger qui la ramène à la maison. Il accomplit sa mission de salut. Quelle joie aussi pour la brebis. Ici, elle n'est pas mentionnée. Mais en tout cas, ensuite, cette joie, il veut la partager. Réjouissez-vous avec moi. La joie, effectivement, c'est pas quelque chose qui reste individuel. C'est une joie collective. Et on l'a vu dans la Trinité, la joie, c'est fait pour être partagée. Je ne pense pas que la joie individuelle puisse vraiment exister selon la pensée de Dieu et selon la manière dont Dieu la vit. un autre passage qui nous montre la joie de Jésus, le Seigneur, dans Hébreux 12, il dit qu'en échange de la joie qui lui était réservée, ou à cause de la joie, dans notre version, j'ai un peu mélangé les versions, selon que les expressions me convenaient plus ou moins, mais l'idée est la même, bien sûr. En échange de la joie qui lui était réservée, Jésus a souffert la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc on voit là ici la joie du Sauveur, malgré la souffrance infinie qu'il a endurée. La perspective de la joie était devant lui, comme un moteur, comme dans ce qu'on a chanté dans Néhémie 8, la joie de l'Éternel sera votre force. Eh bien, le Seigneur a pu le réaliser certainement de façon unique et totale. Et puis, je l'ai tout à l'heure juste mentionné, encore dans cette parabole de Luc 15, on a la joie du Saint-Esprit qui est mentionnée. On est à peu près tous d'accord dans cette interprétation que la femme qui cherche sa pièce, sa drachme perdue, est une image du Saint-Esprit pour clôturer, pour clore et pour finir d'illustrer cette trinité à l'œuvre dans le salut de chacun. Et c'est la joie. Chacun retient que dans cette parabole, c'est la joie qui domine dans toutes les parties de la parabole. Et ici, la femme, lorsqu'elle a retrouvé, appelle ses amis et ses voisines. Et il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Réjouissez-vous avec moi. Donc on voit là, ici, une image de la joie authentique de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est celui qui vient nous toucher de près, c'est celui qui vient intervenir à notre contact, c'est lui qui va être à l'œuvre et qui va nous communiquer cette joie. Donc cette joie qui rayonne en fait entre le Père et le Fils va nous être transmise par l'Esprit Saint. C'est lui qui nous la transmet et aussi elle va impacter le royaume de Dieu, comme c'est dit dans ce verset de Romains 14. Le royaume de Dieu, ce n'est pas à manger et boire, mais justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Saint-Esprit donc est l'agent qui communique cette joie. Et puis, on peut dire tellement que la joie est essentielle, qu'il y a aussi la joie des anges, on ne va pas s'attarder, mais voilà, il est question dans Job 38 des fils de Dieu qui éclataient de joie. On peut penser que voilà, ce sont les êtres créés, ce ne sont sûrement pas les étoiles du matin chantées ensemble. On peut penser que c'est un peu la même chose, les êtres célestes qui honore Dieu, qui le loue, qui l'exalte, et qui pousse des cris de joie, des cris de joie. Voilà, c'est vrai que nous, la joie, on ne pousse pas tellement de cris lorsqu'on se réjouit, mais dans la Bible, on a plusieurs fois ces expressions, dans l'Ancien Testament, de la joie qui s'exprime par des cris de joie. Donc on peut penser que ici ce verset semble dire que lorsque Dieu a créé la terre, les anges, tout le monde angélique entier s'est réjoui. Il s'est réjoui. Et en fait, probablement aussi au moment de la création de l'homme, je pense. Lorsqu'ils ont pu voir ce point final de la création. À la chute, à ce qui est arrivé, on comprend, la Bible nous dit que Dieu qui est omniscient n'a pas été pris au dépourvu. Et dans son amour, de toute éternité, il avait prévu de mettre en œuvre ce plan éternel de salut. Un plan conçu avant la fondation du monde, nous dit la parole de Dieu. Voilà, Dieu a toujours eu cette pensée d'introduire les hommes dans une relation privilégiée, une relation merveilleuse avec son Fils. Et des versets nous disent que Dieu nous a choisis en Christ, qu'il nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Je trouve que ça, c'est l'aboutissement final de l'être humain, de ce que le merveilleux avenir qui se dessine devant nous, que Dieu a prévu, pour qu'il soit premier-né parmi beaucoup de frères. Pour qu'il soit premier-né. Comprends que être à l'image du Fils, c'est pas la finalité. C'est pour que lui soit premier-né, celui qui est l'aîné des frères, le frère aîné. Il veut que nous aussi, donc, des êtres humains, nous servions à la louange de sa gloire. et que pendant l'éternité, comme des enfants de Dieu, nous partagions sa joie éternellement. Mais dès aujourd'hui, Jean 5 nous dit, celui qui entend ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà, donc déjà pour le présent, il y a cet évangile, l'évangile, la bonne nouvelle du salut, qui est annoncée, qui est présentée encore aujourd'hui par la grâce de Dieu et qui est proclamée encore aujourd'hui de diverses manières, par divers moyens, et qui est essentielle, hein, parce que le fait de la refuser aussi expose à quelque chose de terrible, c'est le jugement, dont il est juste fait une allusion ici, ne vient pas en jugement. Et puis, 2 Corinthiens 5 nous dit que si quelqu'un est en Christ, voilà, donc ça c'est le salut obtenu, eh bien c'est une nouvelle création, une nouvelle créature, les choses vieilles sont passées, toutes choses sont faites nouvelles. Et cette nouvelle création, ben voilà, c'est déjà quand on a reçu le Seigneur Jésus pour son sauveur, on passe par cette transformation, par ce phénomène. La nouvelle création, c'est lorsque on devient chrétien, en fait, et de profonds changements s'opèrent en nous, et se sont opérés en nous, une fois qu'on est chrétien. Alors Dieu nous donne un cœur nouveau, voilà les versets, un esprit nouveau, une nouvelle vie, un nouveau maître, et nous donne la joie. On a pris un cœur de pierre, on a un cœur vivant, qui bat à l'unisson de celui du Seigneur Jésus, on reçoit le Saint-Esprit, dont on a déjà parlé, il va habiter en nous, on est reconnecté avec Dieu, tout ce que Adam avait perdu, on le reçoit, et même de façon encore plus amplifiée, puisque Adam n'avait pas l'Esprit Saint en lui, mais Dieu nous fait le cadeau merveilleux, immense, de vouloir habiter en nous. Alors que ce Saint-Esprit, on l'a vu, il est au sein de la Trinité. Voilà, alors il a dit en nous, il va éclairer notre intelligence, transformer nos pensées, et nous aider à discerner la volonté de Dieu, et nous aider à vivre une nouvelle vie. Et c'est pour ça qu'on a à prendre conscience qu'on peut vivre maintenant d'une nouvelle vie. Et parce qu'on a un nouveau maître, on n'est plus sous l'influence de Satan, mais on est des disciples du Seigneur Jésus. Voilà, alors Christ, le Seigneur Jésus, devient notre Seigneur, il devient notre Dieu, il devient notre joie. On voit que dans ce dernier verset, le verset de Pierre que j'ai mis, 1 Pierre, ce qui le salue, oui, j'ai mis des guillemets, des points de suspension parce que c'est un petit peu long, donc il est question un héritage d'abord, il y a écrit un héritage incorruptible dans le verset 5, 1 Pierre 1, 5, et puis après il est question du salut, et puis après il écrit c'est là ce qui fait votre joie, c'est-à-dire que la joie elle découle de la certitude de l'héritage incorruptible que Dieu va nous donner, va nous offrir, et du salut que déjà dont on a déjà les arts et dont on a déjà une bonne partie. On attend plus que le salut final, la transformation de nos corps. Mais voilà, c'est là ce qui fait votre joie. Et puis il nous dit que nous nous réjouissons d'une joie, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Voilà, ça c'est la joie présente de la certitude de l'héritage et du salut qu'on a obtenu, et qui est en même temps, elle s'ancre dans le futur, dans l'avenir que Dieu nous réserve, et c'est pour ça que, puisqu'il dit à la fin, vous obtiendrez, je n'ai pas mis la suite, vous obtiendrez le salut de vos âmes, vous obtiendrez pour prix de votre foi. Donc la délivrance du corps aussi. Eh bien, Pierre nous dépeint donc cette joie qui découle de la relation vivante qu'on a qui vient entre Jésus-Christ et les croyants. Et c'est une joie divine, une joie transcendante ici, qui est décrite, qui touche à un paroxysme. Je vois les mots aussi, des mots qui s'accumulent pour approfondir le sens, et il est question de se réjouir. C'est une joie indicible, indescriptible, et une joie qui est glorifiée, glorieuse. Donc les termes sont très forts. Et vous réjouissant ici, certaines versions traduisent exulter. Exulter, c'est manifester, exprimer sa joie sans retenue. Exulter. C'est une joie qui déborde. Voilà. C'est la joie qui peut nous caractériser déjà pour toutes les bénédictions qu'on a en Jésus-Christ. Alors cette joie est un don de Dieu aux hommes. Et là encore, je note que c'est le Père qui la communique dans ce verset de Romains 15, que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant, pour que vous abondiez en espérance. Donc c'est une joie qui nous est communiquée à profusion. Et on a ce don du Fils aussi, de façon conjointe, le Père nous l'offre, le Fils aussi nous l'offre. Verset, on y a fait allusion tout à l'heure, dans l'introduction, dans Jean 15, le Seigneur dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc, cette joie est un don de Dieu, le Fils. Jésus la communique à ses disciples, mais aussi à nous. Et il invite les croyants à entrer dans cette joie trinitaire, la joie de Dieu. Et puis, c'est un don, enfin, de l'Esprit Saint. J'ai mis un verset de 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Il est question de la joie qui est liée à la souffrance. On en reparlera. Les Thessaloniciens avaient reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie de l'Esprit Saint, ou du Saint-Esprit. Donc, on comprend que cette joie, déjà, est surnaturelle. Les épreuves n'ont pas éliminé la joie, mais elle a pu cohabiter avec les épreuves, et elle est présente même dans l'épreuve. Et puis, on ne peut pas oublier ce verset clé, quand même, de l'Épître aux Galates, au chapitre 5, verset 22. Je lis le début. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la paix, pardon, la patience, la bonté, etc. Voilà, on voit que donc la joie c'est une dimension de vie nouvelle. En Christ, on a une nouvelle dimension de vie caractérisée par la joie. C'est pas seulement une émotion, mais c'est un état spirituel qui est enraciné, je pense, de façon étroite à l'amour divin. Je pense que c'est une résultante même de l'amour. Ce verset de Jean 15 tend à le montrer. Puisqu'il est dit « Demeurez dans mon amour », Jésus parle au sien, « afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ». Donc on peut penser que la joie est une manifestation, une résultante, une conséquence heureuse et bénie de l'amour. Et que dans ce beau fruit de Galate 5, le fruit de l'esprit, on a chacun remarqué qu'il y a 9 grains, comme une grappe de raisin, composée de 9 grains, j'aime le voir comme ça pour l'illustrer. Eh bien, on comprend que l'amour est premier, c'est l'essence, et parce que certains disent, oui, il y a des énumérations qui vont du moindre vers le plus grand. Mais ici, quand même, on ne peut pas dire que le moindre, c'est l'amour. Donc, je pense que l'amour est en premier, et puis, tous les autres... toute la suite dépend un peu de l'amour, est une résultante de l'amour, et la joie en particulier. Et vous pourrez noter avec moi, la joie est quand même notée en seconde position, avant même la paix, alors que certains ont pu dire que il n'y a pas de joie sans que la paix soit établie, certainement. Mais en tout cas, dans la manifestation peut-être, la joie prend le pas même peut-être sur la paix qui certes doit nous habiter, régner dans nos cœurs et que Dieu nous a donné, mais la joie devrait être en tout cas bien visible, essentielle. Et voilà, c'est une manifestation de l'amour. Et c'est une dynamique aussi, parce que l'amour versé dans le cœur, qui en fait, il ouvre le cœur à Dieu et aux autres, et puis c'est il fait naître la joie. Et la joie, parce qu'on se réjouit en Dieu, on se réjouit de ses dons, et puis cette joie qui est partagée avec d'autres, entretient et approfondit encore l'amour. Il y a un petit peu un cercle vertueux pour montrer que l'amour et la joie sont un petit peu en lien l'un avec l'autre, et qu'ainsi la joie peut devenir contagieuse et qu'elle peut devenir féconde. Et j'ai un peu déjà dit qu'on aime Dieu, qu'on chante ses louanges, comme on vient de le faire, on a le bonheur de chanter ses louanges, un psaume dit « louons sans cesse », eh bien, c'est une vertu qui est une activité qui est heureuse et bénie, et qui est une belle manifestation de la joie qui est dans nos cœurs, si quelqu'un est joyeux, qu'il chante des cantiques, et c'est vrai que, voilà, on pourrait peut-être, de nos cœurs déjà, chanter un peu plus souvent, et exprimer notre joie, notre reconnaissance aussi au Seigneur. Et voilà, la joie la plus profonde, en fait, c'est tellement lié à l'amour, c'est quand on aime quelqu'un. C'est quand on aime quelqu'un, on a la joie à goûter sa présence, à apprécier, et puis on a la joie aussi, c'est de faire le bonheur de l'autre, le bonheur de celui que de cette personne, de la personne qu'on aime, et c'est, voilà, on a la joie à faire tout notre possible pour manifester cet amour envers lui. Dans la joie du donc le chrétien doit être caractérisé par la joie. J'avais vu comme ça incidemment le petit catéchisme de Westminster. C'est une petite une confession de foi qui a uni des théologiens, c'était au XVIIe siècle, et qui ont exposé un petit peu la foi chrétienne. Et là, c'est le petit catéchisme, donc c'est un condensé. Et j'ai été frappé par la première question qui est posée: quel est le but principal de la vie de l'homme? Et la réponse, c'est: le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Pour confirmer cette affirmation, le psaume 50 dit « Celui qui sacrifie la louange me glorifie ». Voilà donc un but de glorifier Dieu. Et le psaume 16 dit « Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence, délice éternel auprès de toi ». Dieu nous a créés donc pour le glorifier, mais aussi pour trouver en lui notre joie. Dieu a voulu qu'on prenne plaisir à lui. Comme dans la Trinité, chacun prend plaisir à l'autre personne, et bien on est invité à prendre notre plaisir, notre joie, nous-mêmes aussi en Dieu. Et Dieu également, d'une façon réciproque, trouve sa joie en nous. Alors sachons prendre notre plaisir, notre joie en Dieu, dans ce Dieu qui nous aime, et qui nous aime tant, et qui nous montre tant de joie. Dans la joie du chrétien, de nombreux versets la montrent. Au psaume 84, on voit: bienheureux ceux qui habitent dans ta maison, ils te loueront sans cesse. Voilà, ici, donc, on a encore une fois cette louange qui peut monter à Dieu, vers Dieu, particulièrement quand on est dans sa maison, donc ce sera peut-être quand on sera au ciel, mais déjà, quand on se rencontre aussi autour de lui, ou dans les moments de rassemblement d'église, où l'église est réunie autour du Seigneur Jésus, où sa présence nous est assurée aussi par la foi, eh bien, on peut se réjouir. Et lui exprimer aussi notre bonheur et notre joie par la louange. Et ça glorifie Dieu, et ça lui plaît. Le psaume 33 dit: juste réjouissez-vous en lui, on peut trouver notre joie en l'Éternel. Et en Pierre 4 nous dit que la joie peut être éprouvée aussi au sein de la souffrance. Justement, au sein de la souffrance, est-ce que tristesse et joie, ça fait bon ménage? Alors, au sein de la souffrance, il n'est pas dit que, il n'est pas parlé tellement de tristesse, mais j'ai voulu faire une petite diapositive sur la tristesse et la joie. Des poètes ont employé quelquefois l'image du ciel ensoleillé et des nuages pour évoquer la communion avec Dieu. Les nuages des épreuves qui surviennent donc, et quelquefois la communion avec Dieu qui est interrompue par le péché quelquefois. Voilà. Ou par les épreuves. Alors ici, l'image 2 montre un ciel bleu éclairé par le soleil de l'amour de Dieu, et ça pourrait représenter la joie. Si la journée représente la vie du croyant, les nuages des épreuves qui surviennent n'assombrissent là, dans ce schéma, que partiellement sa vie. Le ciel reste bleu, la joie demeure. Et pourtant les nuages sont là, mais voilà, on a donc l'image. Je répète, c'est l'image 2 à droite, l'atmosphère du chrétien qui goûte la joie même au milieu de la souffrance ou de la tristesse. Mais si le vent de l'esprit ne souffle pas, il y a les nuages peuvent s'amonceler et l'orage survenir. Le ciel alors devient noir, vu de la terre, même si au-dessus il est encore bleu. du côté de Dieu, les choses ne changent pas. Le soleil est toujours là. Mais la personne qui se trouve au-dessous, dans cette atmosphère, eh bien, cette atmosphère est assombrie par la souffrance, par la tristesse, par l'épreuve ou le péché. Donc ce qu'il faut, ben, voilà, c'est que le vent souffle et chasse un petit peu les nuages quand même. Et ceux qui arriveront, les nouveaux nuages, ne feront que passer si le vent souffle. Et ce vent nous fait penser à l'Esprit de Dieu qui est là pour nous animer et pour faire revivre la joie en chacun de nous. Et cet Esprit c'est à nous de rechercher la pensée de l'Esprit et d'aligner nos pensées sur l'Esprit de Dieu. De nous recentrer dans nos pensées sur Dieu, de nourrir nos pensées de foi. Et alors nos émotions, les émotions humaines deviendront moins nocives, moins lourdes et plus agréables. Voilà, la joie de Dieu n'efface pas les épreuves, mais elle les traverse. Puis c'est vrai que voilà, cette joie, c'est quand même comme un fleuve ininterrompu. Si le fleuve souvent dans la Bible parle de l'amour de Dieu, et je souscris à cette comparaison, un fleuve qui est large et profond, j'ai mis ce verset de Psaume 65, le fleuve ou le ruisseau de Dieu, mais c'est un mot qui peut être traduit par fleuve, canal, le fleuve de Dieu est plein d'eau. Voilà, alors... la joie, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est peut-être le mouvement du fleuve, le courant du fleuve, et peut-être la lumière à sa surface, qui peut être comparée à la joie, avec le reflet du ciel. La joie, c'est peut-être le chant, la mélodie de l'eau, du fleuve, et c'est aussi la fraîcheur, le parfum qui peut se dégager. Voilà, le psaume 36 nous dit « Tu nous abreuveras au fleuve de tes délices ». Et le chapitre 12, du livre d'Ésaïe reflète une grande joie lorsqu'il dit « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». On peut dire que le fleuve de l'amour de Dieu qui apporte le salut produit la joie. Et c'est pour ça qu'on peut puiser dans ce fleuve de l'amour, dans ce fleuve du salut qui est la résultant de l'amour de Dieu, eh bien, on peut puiser la joie en s'abreuvant à ce fleuve et à sa source. Donc, on comprend bien que la joie, on n'a pas à la fabriquer, on n'a pas à chercher en nous-mêmes, mais on a à l'accueillir de la part de Dieu, ou même de l'accueillir. Et, en fait, ici, lorsqu'il vous puiserez, c'est comme si Dieu nous disait, ben, voilà, puise à la source, puise dans le fleuve de l'amour que je t'offre, et goûte mon amour, et en fait, entre dans ma joie. Lorsqu'on vit dans cette joie, le quotidien peut être transformé. Notre vie davantage sera nourrie de louanges, on aura une vie plus, on marchera mieux plus dans la lumière, et notre cœur sera davantage un petit peu un reflet du ciel. Et puis, on l'avait évoqué aussi en introduction, on attend cette joie éternelle, la joie éternelle qui nous est réservée, ce sera voilà le paroxysme de la joie, une joie d'une intensité incomparable. Le chapitre 51 d'Ésaïe nous dit « Ceux que l'Éternel a délivrés retourneront et viendront à Sion avec des chants de triomphe. Une joie éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront l'allégresse et la joie. Le chagrin et le gémissement s'enfuiront. Ce ne sera plus que des mauvais souvenirs. » Voilà, ici c'est le contexte, c'est l'Éternel qui promet à son peuple d'Israël de revenir bientôt de la captivité. Mais ça fait allusion à un temps futur où Israël alors connaîtra l'allégresse et la joie. Là aussi on voit que les termes se multiplient pour montrer cette joie intense, profonde, qui durera lorsque en fait le Messie, le Christ, régnera sur eux dans ce royaume, dans le millénium. Et puis Apocalypse 19 nous dit, et là on se sent davantage concerné, même si le premier peut être généralisé ou ouvert à nous, le deuxième nous touche le plus près lorsqu'il est dit « Réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et sa femme s'est préparée. » On sait qu'il est question de l'épouse dans cette femme, l'épouse de l'agneau. Voilà, c'est une grande joie qui éclate au ciel lorsque les noces de l'agneau se réalisent l'Église, alors unie à Christ, connaîtra cette joie inexprimable. En conclusion, on peut dire que la joie n'est pas une option dans la vie chrétienne. Non, c'est pas la cerise sur le gâteau. Loin de là, elle est beaucoup plus importante, elle est vitale. Elle est notre force, en fait. Hein, je reprends ce que dit Néhémie 8. Et elle est le témoignage aussi qu'on a à rendre. Elle est une bénédiction que Dieu nous accorde. Alors ce serait dommage de la minimiser. Pas de la mépriser, mais de la minimiser. Dieu est amour et Dieu est aussi le Dieu de la joie. Le Dieu de l'allégresse de ma joie, dit dans un psaume. Lui-même se réjouit, le ciel tout entier est dans l'allégresse en fait. Et il veut que chacun de ses enfants participe dès aujourd'hui à cette joie, dès maintenant. La joie c'est en fait le cadeau de Dieu et c'est à nous de l'accepter, de le recevoir, de l'accueillir et de le partager. Allez, j'avais amené pour illustrer un petit peu la chose. Voilà, j'ai amené une boîte. Et voilà, ça représente la joie. Je peux dire c'est la joie du Seigneur. Elle est à toi, je peux dire, si tu sais la partager aussi. Parce que la joie, on l'a dit, c'est fait pour être partagé. Et on peut la donner à quelqu'un en ayant pour lui avec de l'amour. Avec de l'amour, c'est-à-dire que je vais l'offrir. Je vais l'offrir à Étienne, par exemple. Je vais lui dire que je t'offre. Étienne, je t'offre c'est la joie du Seigneur dans cette boîte. Je te l'offre parce que j'ai envie qu'elle illumine ta vie. Que ta vie soit vraiment féconde et que tu puisses bien rendre un beau témoignage. Voilà, et je crois que cette joie peut te servir. Et alors on pourrait la prendre, la recevoir, à condition ensuite de la passer à quelqu'un d'autre et lui dire pourquoi, car la joie est, ou bien pourquoi on veut la communiquer à quelqu'un. Voilà. Donc, je te la donne, Étienne, c'est pour que tu puisses être illuminé par cette joie, et si tu veux, voilà. Il faut la donner à quelqu'un d'autre après, mais bon, on va pas s'amuser à le faire pour tous, hein.
Alors, je vais la donner à mon ami Jean-Luc. Jean-Luc, je sais que dans ta vie, tu as eu des épreuves, des personnes chères qui sont parties. Mais tu as toujours été un témoin pour moi de la joie du Seigneur dans ta vie, dans ce que tu as vécu, et je souhaite que la joie, cette joie reste en toi et que tu puisses la partager comme tu continues de le faire.
Merci
Samuel. Tu vois, pour moi la joie c'est lié à une personne. On peut avoir, par exemple, un ami ou une amie intime avec qui on aime partager les choses. Et si je suis pas bien, s'il y a des nuages, s'il y a de l'orage, je peux penser à mon ami et elle n'a pas changé ou il n'a pas changé. Si quand je pense à lui dans un moment plus paisible, ça me fait plaisir aussi, etc. Mais ce que je sais, c'est que j'ai un ami dans le ciel qui n'a pas changé. Et c'est dans la relation avec lui qu'il nous donne sa joie.
Merci. Bon, peut-être qu'on ne va pas faire le tour d'assistance, ce sera un peu long. Voilà, en fait, donc, pour conclure, c'est que le Seigneur, qui a voulu partager cette joie qui existait au sein de la Trinité, qui a voulu la partager aux hommes, il désire que nous aussi, on la partage. Alors qu'on la garde pas pour nous-mêmes, il faut qu'on en partage cette joie, qu'on la communique à d'autres, à des amis, peut-être en priorité, à part l'ami suprême, on a d'autres amis, on peut partager cette joie avec eux, et puis à toutes autres personnes, parce que Dieu n'a pas choisi ceux qui étaient ses amis pour leur communiquer sa joie, donc il faut qu'on soit des porteurs de joie, et qu'on sache vraiment à dispenser à d'autres. Voilà. En conclusion, je mets quelques phrases. Alors aujourd'hui, encore choisissons la joie. Ne négligeons pas ce cadeau de Dieu. Emparons-nous de la joie qu'il veut nous communiquer. Parce que quelquefois, c'est vrai qu'on a tendance à vivre la vie comme elle se présente, avec ses difficultés, ses soucis, ses problèmes. Et on demande au Seigneur, mais voilà. Dans toute chose, il y a la joie. Hein. Je pense à ce verset comme ça. Celui qui se donne joyeusement. Et c'est dans tous les domaines, si la joie manque, il nous manque quelque chose, je crois. Et elle est essentielle. Donc, voilà, cette joie, Dieu veut la faire connaître aussi au monde. Quand je disais la partager, c'est pour cela qu'il nous la confie, en fait. C'est pas pour qu'on la garde égoïstement. À notre tour, ne la gardons pas cachée, mais sachons rayonner de la joie. Alors, il y a plusieurs manières de montrer cette joie, de la communiquer, par des sourires, par des paroles, par un geste, par différentes manières, du temps passé aussi avec d'autres. Alors que ce soit dans... je suis passé à une autre. Oui. C'est ça, oui. Voilà. Alors... qu'on puisse dans nos familles, dans nos lieux de travail aussi, dans les églises, dans la rue, partout où maintenant il y a beaucoup de tristesse, d'inquiétude qui domine chez beaucoup de personnes, eh bien le croyant, nous, on peut devenir des témoins silencieux quelquefois, mais aussi qui ouvrent la bouche, pour montrer cette joie qui vient d'ailleurs. Et cette joie, même justement, si on traverse des circonstances difficiles avec joie, ça peut parler, ça peut interpeller quelqu'un, et ça peut questionner, et ça peut être l'occasion de témoigner aussi de notre du fait qu'on connaît Dieu, qu'on a cette joie, la joie de Dieu, la joie du ciel, cette joie qui nous fait vivre en fait, qui est le moteur de un peu de notre vie. Alors aujourd'hui, comme c'est écrit, la choisissons la joie. Et voilà, on peut la vivre aussi collectivement dans l'assemblée, dans l'église. Et j'ai écrit, voilà, lorsque l'assemblée vit dans la joie et lorsqu'elle la partage, le monde découvre le visage d'un Dieu vivant. Parce que cette joie, elle est pas inhérente au monde, mais elle est surnaturelle. Et elle vient du Dieu vivant, du Dieu d'amour. Voilà, mais écoutez, merci de votre attention. C'était peut-être un peu long. Voilà, j'avais mis une bibliographie, s'il y en a qui... J'ai vu deux ou trois livres que Catherine présente dans la liste, et voilà, des livres qui parlent sur la joie, sur le bonheur. Je les ai pas lus tous, hein, loin de là, mais j'ai lu quelques-uns. Merci. Pourquoi pas, oui.